Je crois que si je définis une structure, internement,
To our French guests, the name of Jacques Derrida is not an unknown one. To many of you, he is perhaps. However, I'll just simply introduce him by saying that he is one of these thinkers that in recent times, by giving us small articles, the one on the La Grammatologie, which is very long in fact, but a sequence of them, has imposed himself on the French intellectual scene, and everybody seems to, he is one of those people that with this sequence of statements, everybody feels he has to account with, whether for or against or with and so on. So it is a pleasure for me to introduce to you Professor Jacques Derrida of the École Normale Supérieure, who is going to speak to us on les concepts de structure et de jeu dans le discours des sciences humaines.
Eh bien, peut-être s'est-il produit dans l'histoire du concept de structure quelque chose qu'on pourrait appeler un événement, si ce mot d'événement n'importait avec lui une charge de sens que l'exigence structurale ou structuraliste a justement pour fonction de réduire ou de contester ou de suspecter. Disons néanmoins un événement en prenant provisoirement ce mot avec précaution entre des guillemets. Que serait donc cet événement? Il aurait la forme extérieure en tout cas d'une rupture et d'un redoublement. Il serait facile de montrer que le concept de structure et même le mot de structure ont l'âge de l'épistémé, c'est-à-dire à la fois de la science et de la philosophie, ou de la philosophie qui s'est définie comme science, en Occident, et qu'ils plongent leurs racines dans le sol du langage ordinaire, au fond duquel l'épistémé va les recueillir pour les amener à soi dans un déplacement métaphorique. Néanmoins, jusqu'à l'événement que je voudrais ici repérer, la structure, ou plutôt la structuralité de la structure, bien qu'elle ait toujours été à l'œuvre et toujours reconnue d'une certaine manière, s'est toujours trouvée neutralisée ou réduite par un geste qui consistait à lui donner un centre, qui consistait à la rapporter à un point ou à une présence centrale et fixe. Ce centre avait pour fonction non seulement d'orienter et d'équilibrer la structure, de l'organiser, et on ne peut en effet penser une structure inorganisée, mais de faire surtout que le principe d'organisation de la structure limite ce que nous pourrions appeler le jeu de la structure. Sans doute, le centre d'une structure, en orientant et en organisant la cohérence du système, permet-il le jeu des éléments à l'intérieur de la forme totale. Et aujourd'hui encore, une structure absolument privée de tout centre représente l'impensable lui-même. Et pourtant, on peut dire que le centre ferme aussi le jeu qu'il ouvre et qu'il rend possible. En tant que centre, il est le point où la substitution des contenu à l'intérieur de la structure, la substitution des éléments, des termes, n'est plus possible. Au centre, elle n'est plus possible, pensait-on. Au centre, la permutation et la transformation des éléments, qui peuvent être d'ailleurs même des microstructures à l'intérieur d'une grande structure, cette permutation n'est plus permise, elle est interdite. Et j'emploie ce mot à dessein. Du moins, a-t-on pensé qu'elle était interdite. On a donc toujours pensé que le centre, qui par définition est unique, constitué dans une structure, cela même qui, commandant la structure, échappait à la structuralité de la structure. C'est pourquoi, dans une pensée classique de la structure, le centre peut être dit paradoxalement dans la structure et hors de la structure. Il est au centre de la totalité et pourtant la totalité a son centre ailleurs. Le centre n'est pas le centre. Si bien que le concept de structure centrée, bien qu'il représente la cohérence elle-même, bien qu'il représente la condition de l'épistémé, comme philosophie ou comme science, ce concept est contradictoirement cohérent. Et comme toujours, la cohérence dans la contradiction exprime la force d'un désir. Le concept de structure centrée est en effet le concept d'un jeu fondé, c'est-à-dire d'un jeu pensé depuis une immobilité fondatrice, depuis une certitude rassurante d'être elle-même soustraite au jeu. Depuis cette certitude, l'angoisse peut être maîtrisée et l'angoisse naît toujours, d'une certaine manière, on le sait, d'être impliquée dans le jeu, d'être pris au jeu, c'est-à-dire d'être comme être d'entrée de jeu dans le jeu. À partir de ce que nous appelons donc le centre, et qui, à pouvoir être aussi bien dedans que dehors, reçoit aussi bien les noms d'origine ou de fin, d'arché ou de télos, eh bien, à partir de ce centre, les répétitions, les substitutions, les transformations, les permutations, etc., c'est-à-dire tout le jeu de la structure, sont toujours prises dans une histoire du sens, c'est-à-dire dans une histoire tout court, une histoire dont on peut toujours réveiller l'origine ou anticiper la fin dans la forme de la présence. C'est pourquoi on pourrait peut-être dire que le mouvement de toute archéologie, comme celui de toute eschatologie, sont complices de cette réduction de la structure, de la structuralité de la structure, et tentent toujours, dans leur geste propre, de penser la structure depuis une présence pleine qui est elle-même hors jeu, hors structure. S'il en est bien ainsi, toute l'histoire du concept de structure, avant la rupture dont je parle, toute cette histoire doit être pensée comme une série de substitutions de centre à centre, un enchaînement de détermination du centre. Le centre reçoit successivement et de manière réglée des formes et des noms différents tout au long de l'histoire de la métaphysique, c'est-à-dire de l'histoire de l'Occident. L'histoire de la métaphysique serait, comme l'histoire de l'Occident, l'histoire de ces métaphores ou de ces métonymies dont la forme matricielle, et ici, pardonnez-moi d'être aussi peu démonstratif ou aussi elliptique, mais c'est pour en venir plus vite à mon thème principal, la forme matricielle de ce mouvement serait la détermination de l'être comme présence à tous les sens de ce mot. On pourrait montrer, et je ne peux pas le faire ici, que tous les noms du fondement, du principe, du centre, ont toujours désigné une présence sous les noms de eidos, de arché, de telos, de energeia, de ousia, c'est-à-dire de substance présente comme existence ou comme essence, puis de présence à soi comme modification de l'ousia en sujet, sous les noms de conscience, de Dieu ou d'homme. Eh bien, l'événement de rupture, la disruption à laquelle je faisais allusion en commençant, se serait peut-être produite au moment où la structuralité de la structure a dû commencer à être pensée, c'est-à-dire répétée comme structuralité de la structure, et c'est pourquoi je disais que cette disruption était une répétition, à tous les sens de ce mot, et dès lors a dû être pensée la loi qui commandait en quelque sorte le désir du centre, dans la constitution de la structure, et le processus de la signification ordonnant ces déplacements et ces substitutions à cette loi de la présence centrale. Mais d'une présence centrale qui n'a jamais été elle-même, qui a toujours déjà été déportée hors de soi dans son substitut. Le substitut ne se substitue à rien qui lui est en quelque sorte préexisté. Tout commencerait par le substitut. Dès lors, on a dû sans doute commencer à penser qu'il n'y avait pas de centre, que le centre ne pouvait être pensé, en tout cas dans la forme d'un étant présent, que le centre n'avait pas lieu, n'avait pas de lieu naturel, qu'il n'était pas un lieu fixe, mais une fonction, une sorte de non-lieu dans lequel se jouaient à l'infini des substitutions de signes. C'est alors le moment où, et ce serait ici la réponse à ceux qui, à la question de ceux qui se demandent si souvent aujourd'hui pourquoi le langage envahit le champ problématique universel, ce serait le moment où, en l'absence de centre ou d'origine, tout devient discours, à condition évidemment de s'entendre sur ce mot. Tout devient discours, c'est-à-dire système dans lequel le signifié central, qui échappe au jeu, le signifié originaire ou transcendantal, n'est jamais absolument présent, hors d'un système de différence. L'absence de signifié transcendantal étend donc à l'infini le champ ou le jeu de la signification. Où et comment se produit ce décentrement comme pensée de la structuralité? Pour désigner cette production, il y aurait évidemment quelques niaiserie à se référer à un événement ou à une doctrine ou au nom d'un auteur. Cette production appartient à la totalité d'une époque qui serait la nôtre, mais d'une certaine manière, elle a toujours déjà commencé à s'annoncer. Et nous ne faisons que la répéter dans cette rupture. Cette niaiserie étant désignée, si l'on voulait néanmoins, à titre indicatif, choisir quelques noms propres et évoquer les auteurs des discours dans lesquels cette production s'est tenue au plus près de la formulation, de sa formulation la plus expresse, la plus radicale, il faudrait sans doute citer, mais par exemple seulement, la critique nietzschéenne de la métaphysique, des concepts d'être et de vérité, auxquels sont substitués les concepts de jeu, d'interprétation et de signes sans vérité présente quelque part. La critique freudienne de la présence à soi, dans la forme de la conscience, du sujet, c'est-à-dire de l'identité à soi, de la présence à soi, de la proximité ou de la propriété à soi. Et puis, autre nom, plus proche de nous, Heidegger. La critique heideggerienne de la métaphysique ou de l'ontologie, comme de l'ontothéologie, comme détermination de l'être comme présence. Or, tous ces discours destructeurs et tous ceux qui leur sont analogues sont pris dans une sorte de cercle. Ce cercle est unique dans sa nature. Et il décrit la forme du rapport entre l'histoire de la métaphysique, c'est-à-dire l'histoire de l'Occident, n'est-ce pas ? Ce n'est non pas l'histoire d'une série philosophique, l'histoire de la métaphysique étant l'histoire de l'Occident, et d'autre part, la destruction de l'histoire de la métaphysique. Ce cercle est le suivant. Il n'y a aucun sens aujourd'hui à se passer des concepts de la métaphysique pour ébranler la métaphysique. Il n'y a aucun sens, cela veut dire que nous ne disposons d'aucun langage, d'aucune syntaxe, d'aucun lexique qui soit étranger à cette histoire. Nous ne pouvons donc énoncer aucune proposition destructrice qui n'ait déjà dû, pour se faire entendre, se glisser dans la forme, dans la logique et dans les postulations implicites de cela même qu'elle voudrait contester. Pour prendre un exemple parmi beaucoup d'autres possibles, c'est à l'aide du concept de signe qu'on ébranle la métaphysique de la présence de la vérité. Mais à partir du moment où l'on veut ainsi montrer, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de signifié transcendantal privilégié, et que dès lors, le champ et le jeu de la signification n'avaient plus de limite, on devrait, mais on ne peut le faire, on devrait refuser jusqu'au concept et au mot de signe. Car la signification signe a toujours été comprise et déterminée dans son sens, comme signe de, signifiant, renvoyant à un signifié qui lui-même n'est pas signe, qui arrête le jeu de renvoi signifiant. Si l'on efface la différence radicale entre signifiant et signifié, eh bien c'est le mot de signe lui-même qu'il faudrait abandonner comme concept métaphysique. Lorsque Lévi-Strauss dit dans la préface à Le cru et le cuit qu'il cherche à transcender l'opposition du sensible et de l'intelligible en se plaçant d'emblée au niveau des signes, eh bien la nécessité, la force et la légitimité de son geste ne peut nous faire oublier que le concept de signe ne peut en lui-même dépasser cette opposition sensible-intelligible, car il est déterminé par elle, dans toute son histoire, et il n'a vécu que d'elle, et il n'existe que dans son système. Par conséquent, nous ne pouvons nous passer de ces concepts métaphysiques au moment même où nous entendons déconstruire cet héritage. C'est-à-dire que nous ne pouvons renoncer à cette complicité métaphysique sans renoncer du même coup au travail critique que nous dirigeons contre elle. Et ce que je dis ici du concept de signe peut s'étendre à tous les concepts et à toutes les phrases de la métaphysique qui font système avec lui, en particulier au concept de structure. Alors maintenant, il reste qu'il y a plusieurs manières d'être pris dans ce cercle. Elles sont toutes plus ou moins naïves, plus ou moins empiriques, plus ou moins systématiques, plus ou moins critiques aussi, c'est-à-dire plus ou moins proches de la formulation, voire de la formalisation de ce cercle. Et ce sont ces différences dans la position à l'intérieur du cercle qui expliquent la multiplicité des discours destructeurs aujourd'hui et le désaccord entre ceux qui les tiennent. C'est dans les concepts hérités de la métaphysique que Nietzsche, Freud et Heidegger, par exemple, ont opéré. Or, comme ces concepts ne sont pas des éléments, ne sont pas des atomes, comme ils sont pris dans une syntaxe et un système, eh bien, les emprunts d'un concept font venir au discours de l'auteur toute la métaphysique. C'est ce qui permet alors à ces destructeurs de se détruire réciproquement. Par exemple, Heidegger de considérer Nietzsche avec autant de lucidité que de mauvaise foi et de méconnaissance comme le dernier métaphysicien. Le dernier platonicien. Et on pourrait se livrer à cet exercice à propos de Heidegger lui-même, à propos de Freud et de quelques autres, à partir des uns et des autres. Et aucun exercice, je crois, aujourd'hui n'est plus répandu qu'on le fasse de manière délibérée ou de manière naïve. Alors qu'en est-il maintenant de ce schéma formel que je viens de proposer de manière fort algébrique et schématique? Qu'en est-il quand nous nous tournons du côté de ce qu'on appelle les sciences humaines? L'une de ces sciences occupe peut-être aujourd'hui une place privilégiée du point de vue qui nous intéresse. C'est l'ethnologie. On peut en effet considérer que l'ethnologie comme science n'a pu naître qu'au moment où, dans l'histoire, un décentrement radical a pu être opéré. C'est-à-dire au moment où la culture européenne, par conséquent, l'histoire de la métaphysique et de ses concepts, a été disloquée, chassée de son lieu, au moment où elle a dû cesser de se considérer comme culture de référence. Ce moment, évidemment, n'est pas d'abord un moment du discours philosophique ou scientifique. Il est aussi un moment politique, économique, technique. Et on peut dire en toute sécurité qu'il n'y a rien de fortuit à ce que la critique de l'ethnocentrisme, qui est la condition, qui est l'ouverture même de l'ethnologie, que cette critique soit systématiquement et historiquement contemporaine de la destruction de l'histoire de la métaphysique, ou du décentrement de l'Europe. Toutes les deux appartiennent à la même totalité historique. Or, l'ethnologie, comme toute science, se produit évidemment dans l'élément du discours. Et elle est d'abord une science européenne, utilisant, fût-ce à son corps défendant, les concepts de la tradition. Par conséquent, qu'elle le veuille ou non, et cela ne dépend absolument pas d'une décision de l'ethnologue, l'ethnologie accueille dans son discours les prémices de l'ethnocentrisme au moment même où il le dénonce. Et cette nécessité est irréductible. Elle n'est pas une contingence historique, elle n'est pas une faute, la faute d'un auteur, et il faudrait méditer toutes ses implications. Mais si personne ne peut y échapper, si personne n'est donc responsable d'y céder, si peu que ce soit, cela ne veut pas dire que toutes les manières d'y céder ou de se rapporter à cette tradition sont d'égale valeur critique ou d'égale fécondité. La qualité et la fécondité d'un discours se mesurent peut-être à la rigueur critique avec laquelle est pensé ce rapport à l'histoire de la métaphysique et au concept hérité. Il s'agit là donc d'un rapport critique au langage des sciences humaines et d'une responsabilité critique du discours. Il s'agit de poser expressément et systématiquement le problème du statut d'un discours empruntant à un héritage les ressources nécessaires à la déconstruction de cet héritage. Si nous considérons maintenant, à titre d'exemple, encore une fois, les textes de Lévi-Strauss, ce n'est pas seulement, parce que on a bien voulu m'y inviter, ce n'est pas seulement non plus à cause du privilège qui s'attache aujourd'hui à l'ethnologie parmi les sciences humaines, ni même parce qu'il s'agit là d'une pensée qui pèse beaucoup sur la conjoncture théorique contemporaine, en tout cas en France. C'est surtout parce qu'un certain choix s'est déclaré dans le travail de Lévi-Strauss et qu'une certaine doctrine s'y est fixée, élaborée d'une manière précisément plus ou moins explicite, quant à cette critique du langage et quant à ce langage critique des sciences humaines. Pour suivre ce mouvement, dans le texte de Lévi-Strauss, choisissons comme un fil conducteur parmi d'autres les concepts de nature et de culture. C'est un exemple parmi d'autres. Malgré tous ces rajeunissements et ces phares, cette opposition, on le sait, est congénitale à la philosophie. Elle est même plus vieille que Platon, chez les sophistes. Depuis l'opposition fusis nomos, fusis techné, etc., elle est relayée jusqu'à nous par tout un enchaînement historique d'opposition, non seulement de la nature à la loi ou à l'institution, à l'art ou à la technique, mais d'opposition de la nature à la liberté ou à l'arbitraire, à l'histoire, nature et histoire, nature et société, nature et esprit, nature et vie, etc. Or, dès l'ouverture de sa recherche, et dès son premier livre, Les structures élémentaires de la parenté, 49 je crois, Lévi-Strauss a éprouvé à la fois la nécessité d'utiliser cette opposition et l'impossibilité de lui faire crédit. Dans les structures, il part de cet axiome ou de cette définition, appartient à la nature ce qui est universel et spontané, ne dépendant d'aucune culture particulière et d'aucune norme déterminée. Appartient en revanche à la culture ce qui dépend d'un système de normes réglant la société et pouvant donc varier d'une structure sociale à l'autre. Ces deux définitions sont de type traditionnel. Or, dès les premières pages des structures, Lévi-Strauss, qui a commencé par accréditer ces concepts, rencontre ce qu'il appelle un scandale. C'est-à-dire quelque chose qui ne tolère plus l'opposition nature-culture ainsi reçue, et qui semble requérir à la fois les prédicats de la nature et les prédicats de la culture. Ce scandale, c'est la prohibition de l'inceste. La prohibition de l'inceste est universelle, en ce sens on pourrait la dire naturelle, mais elle est aussi une prohibition, c'est-à-dire un système de normes ou d'interdits, et en ce sens on devrait la dire culturelle. Je lis quelques lignes de Lévi-Strauss. C'est au début des structures. Posons donc que tout ce qui est universel chez l'homme relève de l'ordre de la nature et se caractérise par la spontanéité, que tout ce qui est astreint à une norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif et du particulier. nous trouvons alors confrontés avec un fait, ou plutôt avec un ensemble de faits, qui n'est pas loin, à la lumière des définitions précédentes, d'apparaître comme un scandale. Car la prohibition de l'inceste présente, sans la moindre équivoque, et indissolublement réunie, les deux caractères où nous avons reconnu les attributs contradictoires des deux ordres exclusifs. Elle constitue une règle, mais une règle qui, seule entre toutes les règles sociales, possède en même temps un caractère d'universalité. Il n'y a évidemment de scandale qu'à l'intérieur d'un système de concepts accréditant la différence entre nature et culture. Et en ouvrant son œuvre et sa recherche sur ce factum de la prohibition de l'inceste, Lévi-Strauss s'installe donc au point où cette différence, qui a toujours passé pour aller de soi, se trouve effacée ou contestée. Car dès lors que la prohibition de l'inceste ne se laisse plus penser dans l'opposition nature-culture, on ne peut plus dire qu'elle soit un fait scandaleux, qu'elle soit un noyau d'opacité à l'intérieur d'un réseau de signification transparente. Elle n'est pas un scandale qu'on rencontre, un scandale sur lequel on tombe dans le champ des concepts traditionnels. Elle est ce qui échappe à ces concepts. Et ce qui certainement les précède, y échappant, et les conditionne dans leurs possibilités. On pourrait peut-être dire, par conséquent, que toute la conceptualité philosophique faisant système avec l'opposition nature-culture est faite pour laisser dans l'impensé ce qui la rend possible, à savoir l'origine de la prohibition de l'inceste. Devant cet exemple, que j'ai évidemment trop rapidement évoqué, et qui n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, le langage porte donc en soi la nécessité de sa propre critique. Mais cette critique peut s'opérer selon deux voies, on s'en aperçoit déjà, et de deux manières, pour utiliser un mot que Lévi-Strauss aime beaucoup. Au moment où se fait sentir la limite de l'opposition nature-culture, on peut vouloir, et c'est le premier geste, on peut vouloir questionner systématiquement et rigoureusement l'histoire de ces concepts. Un tel questionnement systématique et historique ne serait ni un geste philologique, simplement philologique au sens étroit du mot, ni un geste simplement philosophique au sens classique de ce mot, parce que s'inquiéter des concepts fondateurs de toute l'histoire de la philosophie, et cela le sont, la notion de physis est absolument fondatrice de l'histoire de la philosophie, déconstituer ces concepts, ce n'est pas faire œuvre de philosophe ou d'historien classique de la philosophie. C'est sans doute la manière la plus audacieuse, malgré les apparences, d'esquisser un pas hors de la philosophie. Ce hors de la philosophie étant une chose beaucoup plus difficile à penser que ne le croient généralement ceux qui croient en être sortis depuis longtemps et très facilement, et qui en général y sont enfoncés par tout le corps du discours qu'ils croient en avoir dégagé. L'autre geste, c'était le premier geste. L'autre geste, et je crois qu'il correspond davantage à la manière et au choix de Lévi-Strauss, consisterait, pour éviter ce que le premier geste pourrait avoir de stérilisant dans l'ordre de la découverte empirique, consisterait à conserver, tout en dénonçant ici ou là les limites, tous ces vieux concepts, comme des outils qui peuvent encore servir. On ne leur prête plus aucune valeur de vérité, n'ont aucune signification absolument rigoureuse, on serait prêt à les abandonner à l'occasion si des instruments plus commodes se présentaient à nous. En attendant, on en exploite l'efficacité relative et on les utilise pour détruire l'ancienne machine à laquelle ils appartiennent et dont ils sont eux-mêmes des pièces. C'est ainsi que se critique chez Lévi-Strauss le langage des sciences humaines. Lévi-Strauss pense ainsi pouvoir séparer ce qu'il appelle la méthode de la vérité, en quelque sorte, les instruments de la méthode et les significations objectives par elles visées. On pourrait presque dire que c'est aussi la première affirmation de Lévi-Strauss. Ce sont aussi, en tout cas, les premiers mots des structures. Je cite, « On commence à comprendre que la distinction entre état de nature et état de société, nous dirions plus volontiers aujourd'hui état de nature, état de culture, à défaut de signification historique acceptable, présente une valeur qui justifie pleinement son utilisation par la sociologie moderne comme un instrument de méthode. Et Lévi-Strauss sera toujours fidèle à cette double intention. Conserver comme instrument ce dont il critique la valeur, disons, de vérité, grosso modo. Double intention. D'une part, en effet, il continuera à contester la valeur de l'opposition nature-culture. Plus de 13 ans après les structures, dans La pensée sauvage, il écrit ceci, qui fait fidèlement écho au texte que je viens de lire dans les structures. L'opposition entre nature et culture, sur laquelle nous avons jadis insisté, nous semble aujourd'hui offrir une valeur surtout méthodologique. Et cette valeur méthodologique, pense-t-il encore, n'est pas affectée par sa non-valeur, disons, ontologique. Je prends ce mot avec beaucoup de guillemets, et de guillemets de guillemets. Il poursuit en effet, ce ne serait pas assez d'avoir résorbé des humanités particulières dans une humanité générale, cette première entreprise en amorce d'autres, qui incombent aux sciences exactes et naturelles, réintégrer la culture dans la nature et finalement la vie dans l'ensemble de ses conditions physico-chimiques. D'autre part, toujours dans La pensée sauvage, il présente sous le nom de bricolage. Alors, mon ami Dreyfus me dit que ça se traduirait en anglais par puttering. Il présente sous le nom de bricolage ce qu'on pourrait appeler le discours de cette méthode. Le bricoleur, dit Lévi-Strauss, est celui qui utilise, je cite, « les moyens du bord », c'est-à-dire les instruments qu'il trouve à sa disposition autour de lui, qui sont déjà là dans l'environnement culturel, et qui n'étaient pas spécialement conçus en vue de l'opération à laquelle on les fait servir et à laquelle on essaie par tâtonnement de les adapter, n'hésitant pas à en changer chaque fois que cela paraît nécessaire, à en essayer plusieurs à la fois, même si leur forme et leur nature les rendent hétérogènes ou contradictoires. Il y a donc une critique du langage dans la forme du bricolage. Et on a même pu dire, je pense ici à un texte de Gérard Genette, Structuralisme et critique littéraire, qui est publié en hommage à Lévi-Strauss, on a même pu dire que le bricolage était le langage critique lui-même, singulièrement de la critique littéraire, en tant que langage sur un langage se servant du langage comme matériau. Et où il est dit, je cite Genette, que l'analyse lévi-straussienne du bricolage pouvait être appliquée presque mot pour mot à la critique et plus spécialement à la critique littéraire. Alors si on appelle bricolage la nécessité d'emprunter ces concepts au texte d'un héritage plus ou moins cohérent, plus ou moins ruiné, on peut dire que tout discours est bricoleur. L'ingénieur, que Lévi-Strauss oppose dans ce texte au bricoleur, l'ingénieur devrait, s'il était possible, construire la totalité de son langage, syntaxe et lexique, en vue de l'opération qu'il prépare. En ce sens, l'ingénieur est évidemment un mythe, un sujet qui serait l'origine absolue de son propre discours et qui le construirait de toutes pièces, serait le créateur du verbe ou le verbe lui-même, de telle sorte que l'idée de l'ingénieur qui a rompu avec tout bricolage est une idée théologique. Et comme Lévi-Strauss nous dit d'ailleurs que le bricolage est aussi mythopoétique, il y a tout à parier que l'ingénieur, que l'idée de l'ingénieur est un mythe produit par le bricoleur lui-même. Dès lors qu'on cesse de croire à un tel ingénieur et à un discours rompant avec la réception historique ou la tradition historique, dès lors qu'on admet que tout discours fini bricole, est astreint à un certain bricolage, que par conséquent l'ingénieur ou le savant sont aussi des espèces de bricoleurs, et même quand ils envoient des cosmonautes dans l'espace, alors l'idée même de bricolage est menacée, c'est-à-dire que la différence dans laquelle elle prenait sens commence à se décomposer. Et cela fait apparaître le deuxième fil qui devrait nous guider dans ce qui se trame ici. l'activité de bricolage, Lévi-Strauss la décrit non seulement comme activité intellectuelle, mais comme activité mythopoétique, c'est son mot. On lit dans La Pensée sauvage, comme le bricolage sur le plan technique, la réflexion mythique peut atteindre sur le plan intellectuel des résultats brillants et imprévus. Réciproquement, on a souvent noté le caractère mythopoétique du bricolage. Or, l'audace remarquable de Lévi-Strauss n'est pas seulement de proposer, notamment dans la plus actuelle de ses recherches, une science structurale des mythes et de l'activité mythologique. Son audace incomparable apparaît aussi, je dirais presque d'abord, dans le statut qu'il accorde à son propre discours sur les mythes, dans le statut qu'il accorde à ce qu'il appelle ses mythologiques, c'est le surtitre, n'est-ce pas, de Le Cru et le Cuit. Son audace de grand style apparaît au moment même où son discours sur le mythe se réfléchit et se critique lui-même. Et ce moment, cette période critique, intéresse évidemment, c'est pourquoi je choisis le texte de Lévi-Strauss comme exemple, cette période critique intéresse évidemment tous les langages qui se partagent le champ des sciences humaines. Que dit Lévi-Strauss de ces mythologiques ? Alors, c'est ici qu'on va retrouver la vertu mythopoétique du bricolage. En effet, ce qui me paraît le plus séduisant dans cette recherche critique d'un nouveau statut du discours, c'est l'abandon déclaré, et nous retrouvons le thème de cette introduction, c'est l'abandon déclaré de toute référence à un centre, à un sujet, et à une référence privilégiée, c'est-à-dire à une origine ou à une arché absolue. On pourrait suivre le thème de ce décentrement à travers toute l'ouverture du dernier livre sur le cru et le cuit. J'y prends seulement quelques repères. Premièrement, tout d'abord, Lévi-Strauss reconnaît que le mythe Bororo, qu'il utilise, dit-il, comme mythe de référence, ne mérite pas ce nom, ni ce traitement, que c'est là une appellation et une pratique abusive ou spécieuse. Ce mythe, pas plus qu'un autre, n'a droit à un privilège référentiel. En fait, je cite Lévi-Strauss, en fait, dit-il, le mythe Bororo, qui sera désormais désigné par le nom de mythe de référence, n'est rien d'autre, comme nous essaierons de le montrer, qu'une transformation plus ou moins poussée d'autres mythes provenant soit de la même société, soit de sociétés proches ou éloignées. Il eût donc été légitime de choisir pour point de départ n'importe quel représentant du groupe. L'intérêt du mythe de référence ne tient pas de ce point de vue à son caractère typique, mais plutôt à sa position irrégulière au sein d'un groupe. Donc il n'y a pas, nous dit Lévi-Strauss, d'unité ou de source absolue du mythe. Le foyer ou la source sont toujours des ombres ou des virtualités insaisissables, inactualisables et d'abord inexistantes. Tout commence par la structure ou par la configuration ou la relation, par conséquent par le jeu, de telle sorte que le discours sur cette structure acentrique, qu'est le mythe, ce discours ne peut lui-même avoir de sujet, de centre absolu. Il doit, par conséquent, faute de manquer la forme et le mouvement du mythe, il doit éviter cette violence à l'égard du mythe, cette violence qui consisterait à centrer un langage décrivant une structure acentrique. Il faut donc ici, par respect pour l'objet, ici le mythe, il faut donc renoncer ici au discours scientifique ou philosophique, au discours de l'épistémé, qui a pour exigence absolue, qui est constitué par l'exigence absolue, du centre, c'est-à-dire de remonter à la source, de remonter au centre, au fondement, au principe, au sujet, comme on voudra. Par opposition, par conséquent, au discours épistémique, si vous voulez, le discours structural sur les mythes, le discours mythologique, doit être lui-même mythomorphe. Il doit avoir la forme de ceux dont il parle. Et c'est ce que dit Lévi-Strauss dans Le Cru et le Cuit, dont je vous demande la permission de lire une longue et très belle page. Je lis. En effet, l'étude des mythes pose un problème méthodologique du fait qu'elle ne peut se conformer au principe cartésien de diviser la difficulté en autant de parties qu'il est requis pour la résoudre. Il n'existe pas de terme véritable à l'analyse mythique, pas d'unité secrète qu'on puisse saisir au bout d'un travail de décomposition. Les thèmes se dédoublent à l'infini. Quand on croit les avoir démêlés les uns des autres et les tenir séparés, c'est seulement pour constater qu'ils se ressoudent en réponse aux sollicitations d'affinités imprévues. Par conséquent, l'unité du mythe n'est que tendancielle et projective, elle ne reflète jamais un état ou un moment du mythe. Phénomène imaginaire impliqué par l'effort d'interprétation, son rôle est de donner une forme synthétique au mythe et d'empêcher qu'il ne se dissolve dans la confusion des contraires. On pourrait donc dire que la science des mythes est une anaclastique, en prenant ce vieux terme au sens large autorisé par l'étymologie et qui admet dans sa définition l'étude des rayons réfléchis avec celle des rayons rompus. Mais, voilà l'important, à la différence de la réflexion philosophique qui prétend remonter jusqu'à sa source, les réflexions dont il s'agit ici intéressent des rayons privés de tout autre foyer que virtuel. En voulant imiter le mouvement spontané de la pensée mythique, notre entreprise, elle aussi trop brève et trop longue, a dû se plier à ses exigences et respecter son rythme. Ainsi, ce livre sur les mythes est-il à sa façon un mythe ? Et cette affirmation est reprise un peu plus loin. Comme les mythes reposent d'eux-mêmes sur des codes de second ordre, les codes du premier ordre étant ceux en quoi consiste le langage, ce livre offrirait alors l'ébauche d'un code de troisième ordre destiné à assurer la traductibilité réciproque de plusieurs mythes. C'est la raison pour laquelle on n'aura pas tort de le tenir pour un mythe, ce livre, en quelque sorte le mythe de la mythologie. C'est par cette absence de tout centre réel et fixe du discours mythique ou mythologique que se justifierait ici le modèle musical que Lévi-Strauss a choisi pour la composition de son livre. L'absence de centre est ici, comme dans une œuvre musicale, l'absence du sujet et de l'auteur. Comme le dit Lévi-Strauss un peu plus loin, le mythe et l'œuvre musicale apparaissent ainsi comme des chefs d'orchestre dont les auditeurs sont les silencieux exécutants. Si l'on demande où se trouve le foyer réel de l'œuvre, il faudra répondre que sa détermination est impossible. La musique et la mythologie confrontent l'homme à des objets virtuels dont l'ombre seule est actuelle. Les mythes n'ont pas d'auteur. C'est donc ici que le bricolage ethnographique assume délibérément sa fonction mythopoétique, celle dont nous parlions tout à l'heure. Mais du même coup, et c'est sa force, elle fait apparaître comme mythologique, c'est-à-dire comme une illusion historique, ou une errance, un moment de l'errance, un moment passager de l'errance, l'exigence philosophique et épistémique du centre. Néanmoins, si l'on se rend à la nécessité du geste de Lévi-Strauss, on ne peut évidemment en ignorer les risques. Si la mythologique est mythomorphique, est-ce que tous les discours sur les mythes se valent ? Question plate, évidemment, et classique, mais difficilement contournable. Devra-t-on abandonner toute exigence épistémologique permettant de distinguer entre plusieurs qualités de discours sur le mythe? On ne peut répondre à cette question plate, et je crois que Lévi-Strauss n'y répond pas, tant que le problème des rapports entre le philosophème ou le théorème de l'épistémé d'une part et le mythème ou le mythopoème d'autre part, tant que ce problème n'a pas été expressément posé, ce qui n'est pas une petite histoire. Faute de poser expressément ce problème, on se condamne à transformer la prétendue transgression de la philosophie en faute inaperçue à l'intérieur du champ philosophique. Et l'empirisme ici serait le genre dont toutes ces fautes seraient chaque fois les espèces. C'est-à-dire que les concepts transphilosophiques se risqueraient à chaque instant de se transformer en concept, en naïveté philosophique à l'intérieur du discours philosophique. Alors on pourrait montrer ce risque sur bien des exemples, avec bien des concepts, des signes d'histoire, de vérité, etc. Mais comme je ne veux pas abuser ici de votre temps et de votre attention, Je passe sur ces exemples. Ce que je veux noter simplement, c'est que le statut du discours qui se cherche par l'ébranlement ou le décentrement du discours de l'épistémé, du savoir philosophique ou scientifique, ce statut ne peut pas sérieusement se trouver, se retrouver sous le nom de mythe. C'est-à-dire qu'il doit chercher son emplacement et son nom au-delà de l'alternative entre philosophème et mitem. Le moment où il s'appelle encore mitem, et c'est le moment spécifiquement lévi-straussien, ce moment dans les sciences humaines a une valeur stratégique incontestable. C'est-à-dire que le nom, le déguisement en mitem, de mitem, est le stratagème, le moment stratégique nécessaire, par lequel le stratège se laisse capturer dans le champ et par le pouvoir qu'il veut renverser. Mais on sait que les renversements sont toujours, que les renverseurs du moins sont toujours captifs de ce qu'ils renversent sur le champ. Ils sont sur le champ captifs de ce qu'ils renversent. Et ce qui se fait jour ici, c'est la nécessité d'ouvrir un autre champ. Et je crois que cela se fait. Ce donc que je veux souligner, c'est seulement que le passage au-delà de la philosophie ne consiste pas à tourner la page de la philosophie, ce qui revient le plus souvent à mal philosopher dans le livre de la philosophie, mais consiste à continuer à lire d'une certaine manière les philosophes, à lire les philosophes d'une certaine manière. Le risque dont je parle est toujours assumé par Lévi-Strauss, et je crois qu'il est le prix même de son audace. J'ai dit que l'empirisme était la forme matricielle de toutes les fautes, menaçant un discours qui continue à se vouloir scientifique, évidemment. Car Lévi-Strauss nous présente son discours comme mythique, mais évidemment, ce à quoi il ne renoncera jamais, c'est à la qualité scientifique de ce discours. Ça, c'est la musique lévi-straussienne. Or, si l'on voulait poser au fond le problème de l'empirisme et du bricolage, on en viendrait sans doute très vite à dire des choses absolument contradictoires quant au statut du discours dans l'ethnologie structurale. D'une part, le structuralisme se donne à juste titre comme la critique même de l'empirisme. C'est facile à montrer et je ne m'y arrête pas. Mais en même temps, il n'est pas un livre ou une étude de Lévi-Strauss qui ne se propose expressément comme un essai empirique que d'autres informations pourront toujours venir compléter ou infirmer. C'est-à-dire que les schémas structuraux sont toujours proposés comme des hypothèses procédant d'un nombre fini d'informations et qu'on soumet à l'épreuve de l'expérience. On pourrait citer 100 textes de Lévi-Strauss illustrant cette double postulation. Structuralisme anti-empiriste et soumission à l'épreuve des faits. Je me contenterai de citer encore l'ouverture à Le cru et le cuit, où il apparaît bien que si cette postulation est double, c'est parce qu'il s'agit ici d'un langage sur le langage. Voici ce que dit Lévi-Strauss. Les critiques qui nous reprocheraient de ne pas avoir procédé à un inventaire exhaustif des mythes sud-américains avant de les analyser commettrait un grave contresens sur la nature et le rôle de ces documents. L'ensemble des mythes d'une population est de l'ordre du discours. À moins que la population ne s'éteigne physiquement ou moralement, cet ensemble n'est jamais clos. Autant vaudrait donc reprocher à un linguiste d'écrire la grammaire d'une langue sans avoir enregistré la totalité des paroles qui ont été prononcées depuis que cette langue existe et sans connaître les échanges verbaux qui auront lieu aussi longtemps qu'elle existera. L'expérience prouve qu'un nombre de phrases dérisoires permet au linguiste d'élaborer une grammaire de la langue qu'il étudie. Et même une grammaire partielle ou une ébauche de grammaire représente des acquisitions précieuses s'il s'agit de langues inconnues. La syntaxe n'attend pas pour se manifester qu'une série théoriquement illimitée d'événements ait pu être recensée parce qu'elle consiste dans le corps de règles qui préside à leur engendrement. Or, c'est bien une syntaxe de la mythologie sud-américaine dont nous avons voulu faire l'ébauche. Alors, ça, c'est la prétention structuraliste, si vous voulez. Pas. On n'a pas besoin de la totalité des faits pour construire la syntaxe. Voici l'exigence empiriste qui s'enchaîne immédiatement à la première. Que de nouveaux textes viennent enrichir le discours mythique. Ce sera l'occasion de contrôler ou de modifier la manière dont certaines lois grammaticales ont été formulées, de renoncer à telles d'entre elles et d'en découvrir de nouvelles. Mais en aucun cas, l'exigence d'un discours mythique total ne saurait nous être opposée, car on vient de voir que cette exigence n'a pas de sens. Par conséquent, la totalisation dans ce texte est définie tantôt comme inutile, puisqu'il s'agit de langage qu'on peut construire une grammaire avec un nombre fini de phrases, tantôt elle peut comme impossible. Cela tient sans doute, et c'est là que je voulais en venir, cela tient sans doute à ce qu'il y a deux manières de penser la limite de la totalisation, ou la non-totalisation. Et je dirais une fois de plus que ces deux déterminations, ces deux manières, coexistent de manière non expresse dans le discours de Lévi-Strauss. La totalisation peut être jugée impossible dans le style classique. Alors on évoque alors l'effort empirique d'un sujet, d'un discours fini, s'essoufflant en vain après la richesse infinie, une richesse infinie qu'il ne pourra jamais maîtriser. Il y aura toujours de nouvelles informations, de nouveaux faits, etc. Il y a trop et plus qu'on ne peut dire. Ça, c'est le deuxième paragraphe de Lévi-Strauss, le texte que je viens de lire. Mais on peut déterminer autrement la non-totalisation. Non plus sous le concept de finitude comme assignation à l'empiricité, mais sous le concept de jeu. Si la totalisation alors n'a plus de sens, ce n'est pas parce que l'infinité d'un champ ne peut être couverte par un regard ou un discours fini, mais parce que la nature de ce champ, à savoir le langage, est un langage fini, exclut la totalisation. Ce champ est en effet celui d'un jeu, c'est-à-dire de substitution infinie dans la clôture d'un ensemble fini. Ce champ ne permet ces substitutions infinies que parce qu'il est fini, paradoxalement. C'est-à-dire parce qu'au lieu d'être un champ inépuisable, comme dans l'hypothèse classique, l'hypothèse métaphysique classique, au lieu d'être trop grand, si vous voulez, il lui manque quelque chose. Il lui manque un centre qui arrête et fonde le jeu. C'est-à-dire qui limite le mouvement de la substitution. On pourrait dire, en se servant rigoureusement de ce mot, dont on efface toujours en français la signification scandaleuse, que ce mouvement du jeu, permis par le manque et l'absence de centre fixe, d'origine, si vous voulez, ce jeu est le jeu ou le mouvement de la supplémentarité. Ce mot scandaleux est le mot de supplément. Le supplément, c'est à la fois le plus qui s'ajoute au plus, et puis c'est ce qui supplée un manque. On ne peut déterminer le centre et épuiser la totalité que parce que le signe qui remplace le centre, qui le supplée, qui en tient lieu en son absence, ce signe s'ajoute, vient en supplément. Le mouvement de la signification ajoute quelque chose, ce qui fait qu'il y a toujours plus. Mais cette addition est flottante parce qu'elle vient vicarier, suppléer un manque du côté du signifié, un manque fondamental. Bien que Lévi-Strauss ne se serve pas du mot supplémentaire comme je le fais ici, c'est-à-dire en soulignant les deux directions de sens qui jouent entre elles. Ce n'est pas un hasard si néanmoins il se sert par deux fois de ce mot dans son introduction à l'œuvre de Mauss. Au moment précisément où il parle, je cite, de la surabondance de signifiants par rapport aux signifiés sur lesquels elle peut se poser. je cite encore Lévi-Strauss, dans son effort pour comprendre le monde, l'homme dispose donc toujours d'un surplus de signification qu'il répartit entre les choses selon les lois de la pensée symbolique qu'il appartient aux ethnologues, aux linguistes d'étudier. Cette distribution d'une ration supplémentaire, si l'on peut s'exprimer ainsi, est absolument nécessaire pour qu'au total, le signifiant disponible et le signifié repéré restent entre eux dans le rapport de complémentarité qui est la condition même de la pensée symbolique. Et le mot supplémentaire réapparaît un peu plus loin, après que Lévi-Strauss ait parlé de ce signifiant flottant qui, dit-il, est la servitude de toute pensée finie. S'il vous permettez, je vais vous lire ce texte un peu long. En d'autres termes, et nous inspirant du précepte de Mauss que tous les phénomènes sociaux peuvent être assimilés au langage, nous voyons dans le mana, le waka et l'oranda, et autres notions du même type, l'expression consciente d'une fonction sémantique dont le rôle est de permettre à la pensée symbolique de s'exercer malgré la contradiction qui lui est propre. Ainsi s'expliquent les antinomies en apparence insolubles attachées à cette notion. Force et action, qualité et état, substantif, adjectif et verbe à la fois, abstraite et concrète, omniprésente et localisée. Et en effet, le mana est tout cela à la fois. Mais précisément, n'est-ce pas parce qu'il n'est rien de tout cela ? Simple forme, ou plus exactement, symbole à l'état pur, donc susceptible de se charger de n'importe quel contenu symbolique. Dans ce système de symboles que constitue toute cosmologie, ce serait simplement une valeur symbolique zéro, c'est-à-dire un signe marquant la nécessité d'un contenu symboliquement supplémentaire à celui qui charge déjà le signifié, mais pouvant être une valeur quelconque, à condition qu'elle fasse encore partie de la réserve disponible et ne soit pas, comme disent les phonologues, un terme du groupe. Et en note, référence à Jacobson, les linguistes ont déjà été amenés à formuler des hypothèses de ce type. Ainsi, citation de Popfon et de Lotz, un phonème zéro s'oppose à tous les autres phonèmes du français en ce qu'il ne comporte aucun caractère différentiel et aucune valeur phonétique constante. Par contre, le phonème zéro a pour fonction propre de s'opposer à l'absence de phonème. Et Lévi-Strauss conclut, on pourrait presque dire pareillement, en schématisant la conception qui a été proposée ici, que la fonction des notions de type mana est de s'opposer à l'absence de signification sans comporter par soi-même aucune signification particulière. Donc, la surabondance du signifiant, son caractère supplémentaire, tient à une finitude, c'est-à-dire à un manque, et c'est à partir d'elle que la finitude peut être pensée comme telle, à un manque qui doit être supplé. On comprend alors pourquoi le concept de jeu est si important chez Lévi-Strauss. Les références à toutes sortes de jeux, en particulier à la roulette, sont très fréquentes chez Lévi-Strauss, en particulier dans ses entretiens avec Charbonnier dans Race et Histoire, dans La Pensée Sauvage, et cette référence au jeu, c'est là-dessus que je voudrais conclure, cette référence au jeu est toujours prise chez lui dans une sorte de tension. Tension avec l'histoire, d'abord. C'est un problème classique autour duquel on a usé les objections, c'est usé en objections et en opération de méconnaissance. J'indiquerai seulement ce qui me paraît être la formalité algébrique de ce problème. En réduisant l'histoire, Lévi-Strauss a fait justice d'un concept qui a toujours été complice d'une métaphysique téléologique ou eschatologique, c'est-à-dire, paradoxalement, de cette philosophie de la présence à laquelle on a cru pouvoir opposer l'histoire, mais qui en a toujours été complice. La thématique de l'historicité, bien qu'elle semble s'introduire assez tard dans la philosophie, y a toujours été requise par la détermination de l'être comme présence et de la philosophie comme épistémé. Et on pourrait montrer que le concept d'épistémé a toujours appelé celui d'historia, et ce ne serait pas seulement un travail d'étymologie, dans la mesure où l'histoire est toujours pensée, nécessairement pensée, comme l'unité d'un devenir, ou comme la tradition de la vérité, ou comme le développement de la science orientée vers l'appropriation de la vérité ou de l'essence dans la présence et la présence à soi, vers le savoir dans la conscience de soi, vers la réappropriation de la présence sous toutes ses formes. On ne peut pas penser l'histoire autrement. L'histoire a par conséquent toujours été pensée comme le mouvement d'une résomption de l'histoire et comme la dérivation entre deux présences, si bien que quelquefois, suspectant le concept d'histoire, on ne fait rien d'autre que répondre à la requête d'une historicité échappant à cette résomption dans la présence. Mais s'il est légitime de suspecter ce concept d'histoire, on risque à le réduire, sans poser expressément le problème que je ne fais qu'indiquer ici, on risque de retomber évidemment dans un anhistoricisme de forme classique, c'est-à-dire dans un moment déterminé de l'histoire de la métaphysique, par exemple celui des grands rationalismes du XVIIe, c'est-à-dire dans un moment de l'histoire elle-même. Telle me paraît être, si vous voulez, la formalité algébrique du problème. Plus concrètement, dans le travail de Lévi-Strauss, il faut reconnaître que le respect de la structuralité, de l'origine interne de la structure et du décentrement, oblige à neutraliser le temps et l'histoire. Par exemple, l'apparition d'une nouvelle structure, d'un système original, se fait toujours, et c'est la condition même de sa spécificité, de la fidélité à sa spécificité structurale, se fait toujours par une rupture avec son passé, avec son origine et avec sa cause. On ne peut donc décrire la propriété de l'organisation structurale qu'en ne tenant pas compte, dans le moment même de cette description, de cette fidélité descriptive, qu'en ne tenant pas compte de ces conditions passées, qu'en omettant de poser le problème du passage d'une structure à une autre, qu'en mettant l'histoire ou le labeur de l'histoire entre parenthèses. Dans ce moment proprement structuraliste, les concepts de hasard et de discontinuité sont évidemment indispensables. Et de fait, Lévi-Strauss y fait souvent appel, comme par exemple pour cette structure des structures qu'est le langage, la structuralité elle-même, si vous voulez, dont il dit dans l'introduction à l'œuvre de Mauss que, je cite, « il n'a pu le langage naître que tout d'un coup, comme par hasard. Quel qu'ait été le moment, dit-il, et les circonstances de son apparition dans l'échelle de la vie animale, le langage n'a pu naître que tout d'un coup. Les choses n'ont pas pu se mettre à signifier progressivement, à la suite d'une transformation dont l'étude ne relève pas des sciences sociales, mais de la biologie et de la psychologie, un passage s'est effectué d'un stade où rien n'avait un sens, à un autre où tout en possédait. » Ce qui n'empêche pas, évidemment, Lévi-Strauss. On ne peut l'en accuser sans beaucoup de mauvaise foi. Ce qui n'empêche pas Lévi-Strauss de reconnaître la lenteur, la maturation, le labeur continu des transformations factuelles, c'est-à-dire l'histoire. Il le fait par exemple entre autres textes dans Race et Histoire. Mais il doit, selon un geste qui fut aussi celui de Rousseau ou celui de Husserl, un geste qui consiste à écarter tous les faits au moment où il veut ressaisir la spécificité essentielle d'une structure, il doit faire appel à quelque chose comme le hasard ou la catastrophe, comme Rousseau le fait pour l'origine de la culture ou de la société, n'est-ce pas ? Cette catastrophe n'est pas un fait, elle est la brisure qui articule une structure sur une autre et qui permet de penser la spécificité structurale. Tension donc du jeu avec l'histoire, avec les risques que je signale. Tension aussi du jeu avec la présence en général, puisque le jeu est disruption de la présence. La présence d'un élément est toujours une référence signifiante et substitutive inscrite dans un système de différence et dans le mouvement d'une chaîne. Le jeu est toujours un jeu d'absence et de présence. Mais si on veut le penser radicalement, ce jeu, dans sa possibilité, eh bien, il faut le penser avant. Cet « avant » devant être pris avec des guillemets. Il faut le penser avant l'alternative de la présence et de l'absence. C'est-à-dire qu'il faut penser l'être comme présence ou absence à partir de la possibilité du jeu et non l'inverse. Or, si Lévi-Strauss a, mieux qu'un autre, fait apparaître le jeu de la répétition et la répétition du jeu, on n'en perçoit pas moins chez lui une sorte d'éthique de la présence, nostalgie de l'origine, nostalgie de l'innocence archaïque et naturelle, une pureté de la présence et de la présence à soi de la société dans sa parole, on pourrait citer 1000 textes à ce sujet, éthique, nostalgie et même remords qu'il présente souvent comme la motivation même du projet ethnologique lorsqu'il se porte vers des sociétés archaïques, c'est-à-dire selon Lévi-Strauss des sociétés exemplaires. Alors, tourner vers la présence perdue ou impossible de l'origine absente, de l'immédiateté rompue, cette thématique structuraliste dans sa face lévi-straussienne est l'aspect triste, négatif, nostalgique, coupable, rousseauiste, de la pensée du jeu dont l'affirmation, dans l'affirmation nietzschéenne, si vous voulez, l'affirmation joyeuse du jeu du monde, l'affirmation de l'innocence du devenir, l'affirmation lavée de toute culpabilité, de tout ressentiment, l'affirmation d'un monde de signes sans vérité, sans origine, et offert à une interprétation active, serait, si vous voulez, l'autre face. Il y a donc deux interprétations de l'interprétation du signe et du jeu. D'une part, l'interprétation, de type lévi-straussien, si vous voulez, qui cherche à déchiffrer, ou qui rêve de déchiffrer, une vérité ou une origine échappant au jeu, dont on a fait le jeu aussi longtemps que possible. On peut respecter le jeu aussi longtemps que possible, mais on rêve de déchiffrer sous ce jeu une vérité qui y échappe. Et alors on vit comme un exil la nécessité de l'interprétation ou de la lecture. L'autre interprétation de l'interprétation, qui n'est plus tournée vers l'origine, affirme le jeu et tente de passer au-delà de l'homme et de l'humanisme, le nom de l'homme étant le nom de cet être qui, à travers l'histoire de la métaphysique ou de l'ontothéologie ou de l'Occident, a rêvé la présence pleine, le fondement rassurant, l'origine et la fin du jeu. Cette deuxième interprétation de l'interprétation dont Nietzsche nous a indiqué la voie ne cherche plus, ne chercherait plus, comme Lévi-Strauss voulait le faire dans l'ethnographie, ne cherche plus l'inspiration d'un nouvel humanisme. Lévi-Strauss disant dans, toujours dans cette introduction à l'œuvre de Mauss que l'ethnographie devait être l'inspiratrice d'un nouvel humanisme. Alors on pourrait percevoir aujourd'hui, à travers plus d'un signe, que ces deux interprétations de l'interprétation, qui sont absolument inconciliables, même si nous les vivons simultanément, même si nous les concilions obscurément en nous, ces deux interprétations de l'interprétation se partagent le champ de ce qu'on appelle de manière si problématique les sciences humaines. Je n'ai pas terminé. Je ne crois pas, pour ma part, bien que ces deux interprétations doivent accuser leurs différences et aiguiser leur irréductibilité, au lieu de se mêler, comme on le voit dans bien des livres aujourd'hui, au galop. Je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui à choisir. D'abord parce que nous sommes là dans une région où, disons l'historicité, nous interdit de prendre au sérieux le choix ou la catégorie du choix. La catégorie du choix paraît bien légère dans cette situation. Ensuite, il n'y a pas à choisir parce qu'il faut, me semble-t-il, essayer d'abord de penser le sol commun, la racine commune de cette différence irréductible. Et qu'il y a là, évidemment, un type de question, disons encore historique, dont on ne fait aujourd'hui qu'entrevoir la conception, la formation, la gestation, le travail, et j'emploie ces mots de conception, de formation, de travail, les yeux tournés, certes, vers les opérations de l'enfantement, mais aussi les yeux tournés vers ceux qui, et j'en suis d'une certaine manière, qui détournent les yeux devant l'encore innommable qui s'annonce et qui ne peut le faire, comme c'est le cas chaque fois qu'une vraie naissance est à l'œuvre, que dans la forme effrayante de la monstruosité.
Avant de commencer la discussion, M. Jean-Hippolyte m'a demandé de prendre la parole une minute.
Dire au nom de tous mes collègues qui m'en ont chargé combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qui nous a été fait dans cette université, par ce département, par l'intermédiaire de la Fondation Ford. Et je voudrais dire, et je crois que je suis l'interprète de tous ceux qui m'ont demandé, qui se sont joints pour me demander de prendre la parole aujourd'hui, je voudrais dire combien nous avons été sensibles, non pas seulement à l'amabilité matérielle, à l'accueil, mais à l'atmosphère qui a régné dans ce colloque, où, en dépit de la difficulté d'interprétation des langues, ce n'est que cette difficulté-là, nous avons senti combien on était proche des problèmes que nous agitions ailleurs que dans cette université, combien on les avait pris avec soin et avec souci, et combien s'est ouvert largement le débat sur la question. Eh bien, je veux vous remercier, remercier les organisateurs et remercier tous ceux qui ont contribué à cette rencontre aujourd'hui. Est-ce que je peux demander la parole pour M. Derrida? Je veux dire, est-ce que je peux abuser de la parole que je viens de prendre pour dire un petit mot à propos de la discussion? C'est possible, oui.
Allez-y.
Ça n'offusque personne. Bien. Je voudrais simplement demander à Derrida, dont j'ai admiré beaucoup, comme tous, l'exposé et les conséquences, je voudrais lui demander quelques explications sur ce qui est, somme toute, le point de départ technique de l'exposé, c'est-à-dire sur la notion de centre de la structure, sur ce que peut signifier un centre. Est-ce qu'il s'agit, quand je prends par exemple la structure de certains ensembles algébriques, où est le centre? Est-ce que le centre, c'est le savoir des règles générales qui, en quelque sorte, permettent de comprendre le jeu des éléments? Ou est-ce que le centre, ce sont certains éléments qui jouissent d'un privilège particulier à l'intérieur de l'ensemble? Ma remarque, et je crois importante, puisqu'il s'agit de dire qu'on ne peut pas penser la structure sans le centre, et que le centre est lui-même déstructuré, n'est-ce pas? Le centre n'est pas structuré. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre lorsque nous faisons les sciences de l'homme. Nous avons beaucoup à apprendre des sciences de la nature. Et qu'elles sont comme une sorte d'image, des problèmes que nous nous posons ensuite réflexivement. On voit apparaître, avec Einstein par exemple, on voit apparaître la fin d'une sorte de privilège de l'expérience vécue. Et par rapport à ça, on voit apparaître un invariant. Un invariant qui est une combinaison d'espace-temps, laquelle n'appartient à aucun des expérimentateurs qui vivent l'expérience, mais qui en quelque sorte survole l'ensemble. Et cette notion d'invariant est-elle le centre? Mais la science de la nature a été encore plus loin. elle ne cherche plus aujourd'hui l'invariant, elle considère qu'il y a des événements qui, en quelque sorte improbables, réalisent pour un certain temps une structure et une invariance. Tout se passe comme si certaines mutations qui ne remontent à aucune bouche et à aucune main, et qui sont comme la mauvaise lecture d'un manuscrit, réalisation comme une malfaçon d'une structure, ou au contraire, réalisation qui promeut une mutation. Est-ce qu'il s'agit de cela? Est-ce qu'il s'agit d'une structure qui est, dans la nature, génotype produit d'un hasard, d'un événement improbable, d'une rencontre qui a constitué une série de molécules chimiques et qui les a organisées d'une certaine façon, jusqu'à créer un génotype qui se réalisera et dont l'origine se perd dans une mutation. Est-ce que c'est vers là que vous allez? Car pour ma part, je sens que je vais vers là et que j'y trouve l'exemple. Au moment où on parle d'une sorte de fin de l'histoire, j'y trouve l'exemple de l'intégration de l'historique sous la forme événementielle et improbable, au sein même de la réalisation des structures. Mais une histoire qui n'a plus rien à voir avec l'histoire qui serait eschatologique, une histoire qui se perd toujours dans sa propre suite, car l'origine est perpétuellement déplacée. Et vous savez que le langage que nous parlons aujourd'hui, à propos du langage, il est parlé à propos des génotypes et à propos de la théorie de l'information. Est-ce que ce signe vide du sens, ce renvoi perpétuel, pourrait se comprendre à la lumière d'une sorte de philosophie de la nature, dans laquelle la nature n'aurait pas seulement réalisé une mutation, mais elle aurait réalisé un mutant perpétuel, l'homme. C'est-à-dire que une sorte d'erreur de transmission ou de malfaçon aurait créé un être qui est toujours mal façonné, c'est-à-dire dont l'adaptation est une perpétuelle errance. Et le problème de l'homme se situerait-il ainsi, dans un champ beaucoup plus vaste, où ce que vous voulez faire, ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire la perte du centre, le fait qu'il n'y a pas de structure privilégiée et d'originaire, pourrait se concevoir sous cette forme, où l'homme serait resitué. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu dire, ou allez-vous vers autre chose? C'est ma deuxième question. Je m'excuse d'avoir pris la parole si longtemps.
Traduisez ou... Alors... Ça veut dire que le jeu des traductions... Sur toute la dernière partie de votre intervention, je peux dire que je suis tout à fait d'accord, mais il s'agissait d'une question. Vous me demandez si je sais où je vais. Alors, je vous répondrai d'abord que j'essaie précisément de me placer au point où je ne sais plus où je vais. Et en ce qui concerne cette perte du centre, justement, j'essaie d'approcher une pensée du non-centre qui ne serait plus la tristesse de la perte du centre. Parce que cette tristesse de la perte du centre, elle est classique. Je ne veux pas dire que je n'en sois jamais triste, mais... J'essaie d'approcher une pensée où cette perte du centre se convertirait en quelque chose d'autre qui serait une affirmation. En ce qui concerne ce que vous avez dit de la nature et de la situation de l'homme dans les productions de la nature, alors je crois que nous en avions déjà parlé ensemble, Je crois que j'assumerai totalement ce que vous avez dit, à la différence des mots. Et ici, les mots sont un peu plus que les mots, comme toujours. C'est-à-dire que je ne peux plus, dans la logique même que vous développez, parler de nature. Dès lors que je parle de nature, je réintroduis précisément tout ce que la nature étant le natif, étant l'originaire, étant le mouvement premier irremplaçable, etc. Alors, étant entendu que je ne sais pas où je vais, que les mots dont nous servons ne me satisfont pas, à ces réserves près, je suis tout à fait d'accord avec vous. En ce qui concerne, alors cette fois, votre la première partie de vos questions, l'invariant einsteinien n'est pas un invariant, n'est pas un centre, c'est le concept même de la variation, c'est le concept du jeu, finalement. C'est-à-dire que ça n'est pas un concept, ce n'est pas le concept de quelque chose à partir du centre à partir duquel un observateur pourrait maîtriser le champ, mais le concept même du jeu que, enfin, j'ai essayé de c'est la constance du jeu.
C'est la règle du jeu.
C'est une règle du jeu qui ne surveille pas le jeu. C'est une règle du jeu qui ne domine pas le jeu. Alors quand la règle du jeu est déplacée par le jeu lui-même, il faut trouver autre chose que le mot de règle. En ce qui concerne l'algèbre, alors je crois que c'est un exemple en effet où un groupe de signifiants, si vous voulez, ou de signes, se trouve dépourvu de centre. Mais on peut considérer l'algèbre de deux points de vue. Ou bien comme l'exemple ou l'analogone de ce jeu absolument décentré dont j'ai parlé, ou bien alors essayer de considérer l'algèbre comme champ limité des objets idéaux produits, dans le sens où surlien, à partir d'une histoire, d'une Lebenswelt, d'un sujet, etc., qui a constitué et créé ces objets idéaux et qui, par conséquent, doit toujours pouvoir lui substituer, en réactivant précisément l'origine, ce dont ces signifiants apparemment perdus sont les dérivations. Alors, je crois que c'est comme ça qu'on a pensé l'algèbre classiquement. On pourrait peut-être la penser comme une image du jeu, autrement. Ou bien on pense l'algèbre comme un champ d'objets idéaux produits par l'activité de ce qu'on appelle un sujet, ou l'homme, ou l'histoire. Et alors on récupère l'algèbre, on récupère la possibilité de l'algèbre dans le champ de la pensée classique. Ou bien alors, on la considère comme un miroir inquiétant d'un monde qui serait algébrique de part en part.
Qu'est-ce qu'une structure? Alors, si je ne peux plus prendre l'exemple de l'algèbre, comment me définirez-vous une structure? Pouvez-vous, pour voir où est le centre?
Je crois que si je définis une structure, naturellement le concept de structure lui-même, je l'ai dit au passage, n'est-ce pas? Le concept de structure lui-même n'est plus satisfaisant, n'est-ce pas, pour décrire ce jeu-là. Alors, comment définir la structure? La structure doit être centrée. Si on veut définir la structure, elle doit être centrée. Mais ce centre peut être ou bien pensé comme il l'a été classiquement, comme un être ou un étang, ou un lieu fixe et naturel. Ou bien comme un manque, disons, ou quelque chose qui permet le jeu, au sens où on parle aussi du jeu dans la machine, n'est-ce pas, du jeu des pièces, et qui reçoit, et c'est là l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire, qui reçoit une série de déterminations de signifiants qui n'ont pas, finalement, de signifier, enfin, qui sont les signifiants qui ne peuvent se produire comme signifiants qu'à partir de ce manque. Alors, évidemment, je crois que ce que j'ai dit est aussi peut-être entendu comme une critique du structuralisme, bien sûr.
Bernard, vous voulez traduire?
Besides that, to place myself at a point where I don't know where I'm going, I'm trying to reach, come closer to the thought of the non-center, which has nothing to do with some sort of a sad, the classical sadness about this loss of the center. As for the comparison with the philosophy of nature, I'll agree with you, except possibly with slightly different words, and words mean more than words. I cannot speak of a nature. Precisely, I can no longer speak of a nature in the sense of the native, the original, and so on. As for the Einsteinian invariant, it's not an invariant, a center. It's precisely the concept of the jeu, the interplay, and not the center of an observation. It's related to the rule of the game, of the game here, which displaces the game itself, and hence leads to the absence, to the repudiation of the word rule itself. As for algebra, there's a notion of a sign without a center, but there are two points of view to consider, from which to consider algebra. There's the interplay which has lost a center, about which I have spoken, and there's a limited field produced from a certain historical perspective or situation which has constituted its ideal objects and must be able to substitute for it last signifiers. This is the algebra from a classical point of view, and algebra is a rather worrying mirror in a world which is algebraic throughout. Monsieur Hippolyte, if then you are talking about a different brand of algebra, how would you define a structure? Monsieur Derrida, the concept of structure itself is no longer satisfying, and the structure must be centered either upon a center in the classical sense of a fixed point, or else, something which enables the interplay to function, which receives a series of signifiers without any signified, these signifiers being precisely determined from this loss. And in a sense, this is a criticism of structuralism.
I'm going to allow three more questions by Morazet, Goldman, and Jan Kott, and then we'll have to go and eat otherwise, and because we have a long session and we have to go and do that too. So I will start with Morazet.
It's not quite a question, it's just a remark. Je veux dire que depuis 20 ans, le dialogue avec Lévi-Strauss sur cette possibilité d'une autre grammaire que celle du langage. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'a fait Lévi-Strauss dans l'ordre de la grammaire des mythologies. Il faudrait signaler qu'il y a aussi une grammaire de l'événement, qu'on peut faire une grammaire de l'événement. Elle est plus difficile à établir. Je pense que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, on commencera à savoir comment cette grammaire, ou plutôt cet ensemble de grammaire d'événements peut être constitué. Et elle aboutit à des résultats, je me permets de dire, en tout cas en ce qui concerne mon expérience personnelle, un peu moins pessimiste que l'autre.
Like Lévi-Strauss's grammar and mythologies, for instance, and it is my feeling that this possibility of a new grammar would not lead me to a pessimism of the kind you seem to have.
I will ask now both Professor Goldman and Professor Koch to ask their questions, and then I'll ask Professor Derrida to answer all of them at once.
Je voudrais dire que je trouve que Derrida, avec lequel je ne suis pas d'accord sur les conclusions, a dans la vie culturelle française une fonction cathartique, et c'est pourquoi je lui rends hommage. J'ai dit une fois qu'il me donne exactement l'impression, c'est un souvenir, quand je suis arrivé en France en 1934, il y avait un très fort mouvement royaliste parmi les étudiants, et brusquement un groupe est apparu, a défendu le royalisme tout autant, mais en demandant une véritable roi, un mérovingien. Dans ce mouvement de négation du sujet, que Derrida dégage, ou du centre, si vous voulez, que Derrida dégage remarquablement, Il est en train de dire à tous les gens qui représentent cette position, mais vous vous contredisez, vous n'allez jamais jusqu'au bout. Finalement, en critiquant les mythologies, si vous niez la position, l'existence de celui qui les critique, et la nécessité de dire quelque chose, vous vous contredisez, puisque vous êtes toujours M. Lévi-Strauss, qui dit quelque chose, et si vous faites une nouvelle mythologie, enfin, la critique était remarquable, ce n'est pas la peine de la reprendre. Mais si, j'ai même noté les quelques mots qui se sont ajoutés au texte, et qui étaient du type destructeur, etc., on pourrait discuter ça au niveau de la sémiologie. Mais je voudrais poser une question à Derrida. Et si au lieu de discuter sur la base d'une série de postulats vers lesquels s'orientent tous les courants tant irrationalistes que formalistes aujourd'hui, tu as en face de toi une position très différente, disons la position dialectique, celle qui pense tout simplement que la science c'est quelque chose que font les hommes, que l'histoire n'est pas une erreur, que ce que tu appelles la théologie, et je prends ton sens dans lequel même laisser donner une signification sans Dieu est encore une théologie, est quelque chose d'acceptable, une tentative non pas de dire le monde est ordonné, il est théologique, mais l'être humain est quelqu'un qui parie sur la possibilité de donner un sens devant un monde qui éventuellement résistera à partir d'un certain moment, et l'origine, le fondamental, ce qui est avant la dichotomie dont tu parles, ou dans la grammatologie, le geste qui a inscrit avant qu'il y ait un sens, est quelque chose que nous étudions d'aujourd'hui, mais que nous ne pouvons pas, nous ne voulons même pas pénétrer de l'intérieur, parce qu'on peut le pénétrer de l'intérieur dans le silence, tandis que nous le voulons le comprendre dans la logique que nous avons élaborée, avec laquelle nous essayons, tant bien que mal, d'aller plus loin, dans l'espoir que nous arriverons à aller plus loin, à donner au monde un sens, c'est-à-dire non pas de découvrir un sens caché par un dieu quelconque, mais de donner un sens à un monde dans lequel c'est la fonction de l'homme, sans savoir d'ailleurs d'où vient l'homme. On ne peut pas être entièrement conséquent, parce que c'est la question est claire, on le sait. Si on dit que l'homme vient de Dieu, on demande d'où vient Dieu, et si on dit que l'homme vient de la nature, on demande d'où vient la nature, ainsi de suite. Mais nous sommes du dedans et nous sommes dans cette situation. Est-ce qu'alors, cette position en face de toi est encore contradictoire? J'ajoute, en passant, parce que l'heure est avancée, que j'avais des remarques sur la remarquable communication de M. Houston, mais que malheureusement, je ne sais pas comment faire. Il faudra trouver un instant pour le discuter, parce que maintenant, il est une heure.
Ce n'est pas presque l'audace, mais c'est seulement pour donner l'épigraphe à ce matin. Il y avait un temps où la phrase célèbre de Mallarmé paraissait tellement significatif, un coup de dé n'abolira jamais le hasard. Mais ce n'est pas possible de dire, après cette leçon que vous avez faite, un hasard n'abolira jamais le coup de dé.
Bon, je dis oui tout de suite à M. Cotte. Quant à ce que m'a dit Goldman, je sens qu'il a isolé dans ce que j'ai dit la face qu'il appelle destructrice. Je crois pourtant avoir été assez explicite sur le fait que rien de ce que j'ai dit n'avait de sens destructeur. Je me sers d'un mot, je me suis servi ici ou là d'un mot qui est le mot de déconstruction, qui n'a rien à voir avec la destruction, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement, et ça c'est la nécessité de la critique au sens classique de ce mot, d'être vigilant quant aux implications, quant aux sédimentations historiques du langage dont on se sert, et ça n'est pas de la destruction. Je crois à la nécessité du travail scientifique au sens classique. Je crois à la nécessité de tout ce qui se fait et même de ce que tu fais, mais je ne vois pas pourquoi je renoncerais ou on renoncerait à la radicalité d'un travail critique sous prétexte qu'il risque de stériliser la science, l'humanité, le progrès, l'origine du sens, etc. Je crois que le risque de la stérilité, le risque de la stérilisation a toujours été le prix de la lucidité. En ce qui concerne alors l'anecdote initiale, Je l'apprends assez mal, parce que c'est me définir comme un ultra royaliste, dans ton anecdote, ou un ultra, comme on disait, dans mon pays d'origine, il n'y a pas tellement longtemps. Et alors, j'ai une conscience beaucoup plus humble et modeste et classique de ce que je fais. Alors, en ce qui concerne l'allusion de M. Morazet à la grammaire de l'événement, là, je lui renvoie sa question parce que je ne sais pas ce que peut être une grammaire de l'événement.
Je vous dis une question brève parce qu'il faut quand même que nous allions manger. Allez-y.
Je ne voulais pas parler parce que je suis encore fatigué moi-même des suites d'une grippe, mais je me sens presque obligé de vous poser une question. Vous parlez toujours de non-centre. Comment est-ce que vous pouvez, dans votre propre perspective, expliquer ou du moins comprendre ce que c'est qu'une perception? Car une perception, c'est précisément la manière dont le monde m'apparaît centré. Et le langage, vous vous le donnez plat, ou si je puis dire, plan. Or, le langage, c'est encore autre chose. C'est, comme disait Merleau-Ponty, une intentionnalité corporelle. Et à partir de cette utilisation-là du langage, dans la mesure où il y a une intention langagière, je retrouve forcément un centre, car ce n'est pas on qui parle, c'est moi. Et même si vous réduisez le moi, vous êtes obligé de retrouver le concept d'une manière ou d'une autre de l'intentionnalité qui, je crois, est à la base de toute une pensée que vous ne reniez pas d'ailleurs. Donc je vous demande comment vous la réconciliez avec vos tentatives actuelles.
Alors, premièrement, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de centre, qu'on pouvait se passer de centre. Je crois que le centre est une fonction, ce n'est pas un étang ou une réalité, c'est une fonction. Et cette fonction est absolument indispensable. Le sujet est absolument indispensable. Je ne détruis pas le sujet, je le situe. C'est-à-dire que je crois qu'à une certaine strate, et de l'expérience, et du discours philosophique, et du discours scientifique, on ne peut pas se passer de la notion de sujet. Il s'agit de savoir d'où ça vient et comment ça fonctionne. Donc je garde, si vous voulez, mais pas au sens de l'aufhebung ou de la conservation de tout ce qu'on critique, mais d'une certaine manière, je ne touche à rien. C'est-à-dire que je garde aussi bien le concept de centre, dont j'ai expliqué qu'il était indispensable, que celui de sujet, que tout le système des concepts que vous avez, auxquels vous vous êtes référé. Je suis husserlien, d'une certaine manière. Bon. Puisque vous avez fait allusion à l'intentionnalité. Simplement, j'essaie de voir ce qui fonde le mouvement de l'intentionnalité, qui ne peut pas être pensé en termes d'intentionnalité. Quant à la perception, alors là, je vous dirais que, une fois reconnue cette nécessaire conservation, bon, je suis extrêmement conservateur, je ne sais pas ce que c'est que la perception, et je ne crois pas qu'il existe quelque chose comme la perception. La perception, justement, est un concept, le concept d'une intuition ou d'une donnée originaire de la chose même, présente elle-même dans son sens, indépendamment justement du langage, du système de référence, n'est-ce pas ? Et je crois que la perception est précisément solidaire du concept d'origine et de centre, etc. Et par conséquent, ce qui atteint la métaphysique dont j'ai parlé atteint le concept même de perception. Je crois qu'il n'y a pas de perception.
Non, j'arrête là parce qu'il faut qu'on aille manger. On va manger et on reprend.